combat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien, bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de Principe Actif, donc c'est Amnesty International Évreux, pour sa seconde et dernière émission du mois de février. Et vous avez peut-être entendu dans le générique, il y a Françoise qui était très impatiente de parler, donc vous avez peut-être entendu un petit peu sa voix. Et
je suis pas branchée.
François, t'es pas branchée? Ah, bah Françoise n'a pas branché son micro, donc... Donc. Si, c'est branché, Françoise. Parle dans le micro. Attendez, excusez-nous.
Vas-y, bonjour.
Non, c'est bon, on t'entend. T'inquiète pas. Voilà. Donc, vous inquiétez pas, hein, c'est juste un petit tour de piste technique entre nous. Donc, voilà, pour les auditeurs et auditeuses au principe actif, donc une heure pour parler des droits humains, comme deux fois par mois sur l'antenne d'Amnesty, sur l'antenne d'Amnesty International, n'importe quoi, sur l'antenne de principe actif. Et donc, avec moi ce soir, il y a Françoise, qui a déjà pris la parole.
Je vous dis rebonjour.
Et Claire-Lise.
Eh ben moi, je vous dis bonsoir.
Voilà. Donc, encore une fois, beaucoup de choses à l'ordre du jour de l'émission, au menu. Donc, effectivement, on va faire visiter plein de pays du monde. On ne vous dit pas lesquels, hein, mais bon, vous allez le découvrir au fur et à mesure de l'émission. Et moi, je vais commencer par, bien sûr, toujours sous l'angle des droits humains et des atteintes aux droits humains et des combats pour eux. Et moi, je vais commencer l'émission pour vous parler d'un pays qui n'est pas loin du tout, puisque c'est le nôtre, c'est la France. Voilà. Donc, je vous avais dit un tout petit mot très rapide, parce qu'on avait manqué de temps pour ceux qui nous écoutent à la dernière émission, la dernière émission d'Amnesty, celle du début du mois, sur les problèmes que posaient, en termes de non-respect des droits humains, les ventes d'armes de la France faites au Liban. Donc je vais y revenir, surtout que ça se conclut aussi par un appel à l'action. Donc Amnesty a la preuve que la France a vendu des armes au Liban qui ont servi pour réprimer la population civile lors des dernières manifestations. Donc voilà juste le communiqué qui date du 27 janvier, donc qui est très récent. Nous avons visionné et analysé des heures de vidéos, scruté à la loupe des centaines de photos, recueilli des dizaines de témoignages. La conclusion ? Du matériel de maintien de l'ordre français a bel et bien été utilisé lors de la terrible répression des manifestations au Liban. À la suite de l'explosion mortelle dans le port de Beyrouth le 4 août 2020, des milliers de Libanais sont descendus dans les rues pour exiger justice. Les réponses des autorités ont été sanglantes. Plus de 230 personnes blessées en un jour lors des manifestations du 8 août. Au cœur de ces violences, nous avons identifié bon nombre d'armes françaises, véhicules blindés, lanceurs de grenades lacrymogènes, balles en caoutchouc. L'usage de la force par les autorités a été clairement disproportionné et non nécessaire, car ces armes ont été utilisées sur des foules non armées, parfois en tir direct rapproché. Ceci a été documenté non seulement durant ces événements, mais aussi dans le cadre d'autres manifestations largement pacifiques à partir d'octobre 2019, ainsi que lors des manifestations d'août 2015, donc qui étaient plus anciennes. En définitive, des centaines de manifestants ont été blessés, bien souvent aux yeux, au visage, au cou et à la poitrine. Selon ses engagements internationaux, la France a la responsabilité de ne pas autoriser des transferts d'armes, tels que des équipements de maintien de l'ordre, dont l'usage peut contribuer à des violations graves des droits humains. Sur Twitter et par courrier, interpeller Emmanuel Macron pour exiger l'arrêt de transfert de matériel de maintien de l'ordre vers le Liban. Ensuite, en deux clics, interpeller vos députés pour qu'ils demandent des comptes au président de la République et exigent l'arrêt des transferts de ce type d'équipement au Liban. La France ne doit plus alimenter la répression des manifestations. Donc, comme vous l'avez deviné, cette prise de position et cette déclaration d'Amnesty débouche sur une action. Donc on peut que vous conseiller, elle est ouverte à tout le monde, hein, que vous soyez sympathisant ou pas d'Amnesty International, peu importe, elle est ouverte à tout le monde. Et elle se décline en fait en deux grands axes. Il y a d'abord des tweets à envoyer, si vous avez Twitter, des tweets à envoyer à Monsieur Macron et également aux députés dont on vous parlait. Vous avez les noms, hein, et vous avez les adresses, tout est prêt sur le site d'Amnesty, amnesty.fr, donc faut pas hésiter. Et vous avez également, et là on peut vous aider, une lettre que je ne vais pas vous lire, mais qui reprend les points du communiqué, à envoyer directement là par courrier postal auprès de la présidence de la République. Et si vous êtes intéressé, ben vous nous envoyez vos coordonnées sur evreux@amnestyfrance.fr et on vous renverra la lettre toute prête à être envoyée donc à Monsieur le Président de la République et qui rappelle le devoir de la France d'arrêter ces ventes d'armes qui servent à réprimer la population civile libanaise. Donc voilà, petite information, envoyer un courrier postal à l'Élysée ne vous coûtera rien puisque ça reste la dernière destination qui est dispensée d'affranchissement. Voilà. Donc ne pas hésiter à nous contacter. J'ai mon plastique sur le micro qui se déplace comme la dernière fois. Je vais le remettre. Voilà. Donc ne pas hésiter à nous contacter encore une fois. L'adresse mail evreux@amnestyfrance en un seul mot.fr et on vous renvoie la lettre à envoyer à Monsieur Macron. Et n'hésitez pas à aller sur le site pour envoyer aussi tous les tweets à la présidence et aux différents députés. Voilà, c'est important, encore une fois, c'est la France, pour rappel, la France a signé le traité sur le commerce des armes depuis plusieurs années, lequel traité, officiellement, interdit à la France de continuer à vendre ces armes qui servent contre la population civile, donc du Liban en l'occurrence. On vous en avait déjà parlé pour les ventes d'armes, de la même façon les ventes d'armes faites par la France en Arabie Saoudite. On espère que ça va s'arrêter. Les États-Unis arrêtent d'en vendre, donc on espère que ça va servir d'exemple pour la présidence française. Mais pour l'instant, effectivement, on n'a pas d'informations. Donc voilà, il faut se mobiliser. Encore une fois, ces armes, ce sont les civils qui manifestent pacifiquement, qui en subissent les conséquences. C'est tout à fait inadmissible. Et pour clore ce petit chapitre, on va vous passer tout de suite la dernière partie du podcast fait par Amnesty France. La quatrième et dernière partie, justement, qui vous raconte depuis trois émissions d'Amnesty sur les ondes de principe actif maintenant, qui vous raconte toute l'histoire de l'engagement d'Amnesty pour obtenir cette signature du traité sur le commerce des armes. Donc ne quittez pas l'antenne et on se retrouve juste après.
Silence. On arme. Par Amnesty International.
Depuis maintenant plus d'un an, Amnesty International fait campagne pour obliger l'État français à faire la lumière sur ses ventes d'armes et obtenir un meilleur contrôle de celles-ci. Pour ce quatrième et dernier épisode de la série Silence, on arme, on se penche sur le rôle déterminant de nos députés. Rencontre avec Aymeric Éluin, chargé de plaidoyer pour Amnesty International en France. Aymeric travaille pour Amnesty International depuis une quinzaine d'années. Sa mission, rencontrer les autorités françaises pour les convaincre de créer des lois et de les appliquer afin de faire respecter les droits humains. Sa spécialité, le commerce des armes.
Le Parlement français, à ce jour, n'est pas un organe de contrôle de l'action du gouvernement en matière de vente d'armes. Il y a un contrôle qui est fait par certains, c'est-à-dire que certains vont poser des questions écrites, des questions au gouvernement, mais il n'y a pas de contrôle parlementaire permanent, institutionnalisé, comme d'ailleurs le suggère le rapport de la mission d'information des députés Jacques Maire et Michel Tabarot, qui a été publié le 18 novembre 2020, et qui, à la suite d'une longue mission de 2 années sur le contrôle des exportations d'armement, propose la mise en place d'un contrôle parlementaire institutionnalisé. En France, le Parlement a pour mission de contrôler l'action du gouvernement. C'est l'article 24 de la Constitution de la Ve République. Mais le fait est que depuis la création de la Ve, il y a une sorte de domaine réservé en matière de vente d'armes, de relations internationales, etc. Domaine réservé d'exécutif. Et donc c'est un pan de l'action publique qui a été complètement abandonné. C'est un contrôle qui, oui, qui n'a jamais été effectif. C'est un peu la même chose que concernant l'armement nucléaire. Ce sont des domaines qui ont été complètement, comment dire, abandonnés à l'exécutif. Et donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de changer la donne, de changer en fait une culture, une pratique des institutions pour redonner finalement au Parlement son pouvoir qui est de contrôler comment en France. On décide d'exporter des armes, puisqu'en France, c'est le Premier ministre, donc le chef du gouvernement, qui décide des ventes d'armes, qui les autorise ou qui les refuse. Et il est absolument inconcevable que dans une démocratie avec une séparation des pouvoirs comme la nôtre, le pouvoir législatif ne puisse pas agir sur la politique à l'exportation de ventes d'armes de la France. L'enjeu est quand même considérable. Il s'agit de s'assurer que les transferts d'armes sont conformes aux engagements internationaux passés par la France, et comme le traité sur le commerce des armes, et qu'à aucun moment, finalement, nous ne risquons de voir des armes françaises commettre des atrocités. Le simple risque qu'elles puissent contribuer à commettre des atrocités est en soi une inégalité. Donc il faut éviter que ça n'arrive. Le conflit au Yémen, malheureusement, peut constituer, entre guillemets, une forme de rupture. C'est-à-dire que pour la première fois, je crois que un certain nombre de parlementaires ont réalisé que c'était réellement de leur obligation d'assurer un contrôle sur la façon dont leur pays, leur gouvernement, vend des armes et connaître donc des risques qui sont attachés à ces ventes d'armes. Donc on le voit, il y a aujourd'hui les bases de la réflexion qui sont posées pour aller vers un contrôle parlementaire.
Pour vérifier ce qu'Emeric affirme sur l'engagement croissant des députés, j'ai appelé Sébastien Nadeau, élu de Haute-Garonne à l'Assemblée nationale depuis 2017.
De manière extrêmement simple, moi je suis député à la Commission des affaires étrangères. Quand deux yéménites viennent à ma rencontre, je découvre la situation, on va dire, déplorable du point de vue humanitaire sur le terrain du Yémen, qu'il l'est toujours d'ailleurs. Et là, je m'aperçois qu'il y a quelque chose qui ressort d'un blocage concernant le Yémen. Et donc, moi, je tire un petit peu le fil de la pelote pour voir pourquoi il y a des blocages. Et je tombe assez rapidement sur deux problématiques qui sont celles de l'approvisionnement en énergie et puis également celles des exportations d'armes en direction de pays qui sont extrêmement riches, que ce soit l'Arabie Saoudite, que ce soit les Émirats Arabes Unis et puis d'autres pays de la région. Et donc, je m'aperçois que finalement, il y a des populations civiles qui sont dans le plus grand dénuement, dans la détresse absolue, et que on fait pas grand-chose parce que il y a un marché extrêmement juteux à côté et qu'il faut le préserver, et que ces intérêts-là passent prioritairement. Et là où le problème devient important pour moi, c'est que il y a un écart entre ce qui est écrit sur le front de la Constitution française, puisque ce sont les premiers mots. Le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme. Et puis cette réalité qui est tout autre et qui est une réalité économique, géopolitique, en l'occurrence sur les exportations d'armes, que ce soit des missions d'information, que ce soit des questions pendant les commissions ou dans l'hémicycle, ne suffisent absolument pas à avoir des informations suffisantes en retour. Et donc la commission d'enquête était la seule manière, et reste aujourd'hui la seule manière, d'en savoir suffisamment sur le rôle de la France et sur la manière dont elle exporte des armes en respectant la législation internationale ou pas. Et donc il faut être bien évidemment en tant que citoyen très en alerte parce que le pouvoir exécutif fait la sourde oreille, mais jusqu'à un point où il ne peut plus faire la sourde oreille. Il a une maîtrise sur le Parlement qui est assez forte, et à tel point qu'il empêche finalement une commission d'enquête de pouvoir s'ouvrir sur le sujet. Et donc les voies parallèles, mais qui sont des voies extrêmement fortes, bien sûr, doivent être beaucoup agitées et véhiculées pour espérer des réelles transformations sur le sujet.
Ce que Sébastien Nadeau appelle les voies parallèles, ce sont celles de la société civile dont fait partie Amnesty International. Retour justement boulevard de la Villette au siège d'Amnesty avec Émeric Éluin, chargé de plaidoyer.
Il faut un changement dans le système français. Il faut de la transparence et il faut du contrôle. Mais pour cela, il faut que les parlementaires jouent leur rôle. Le rapport de la mission d'information est très bien. Maintenant, il faut concrétiser cette étape. Donc, avec les parlementaires, on essaye de travailler en bonne intelligence pour essayer de faire avancer en ayant conscience de la difficulté en France. Mais réellement, il y a... En France, c'est un mur de béton auquel on est confronté. Et ça fait des années que nous, ONG et d'autres acteurs, on se mobilise pour fissurer ce mur de béton du pouvoir exécutif sur les ventes d'armes, où on nous dit sans cesse « circuler, rien à voir ». Donc on est sur un travail au long cours et de confiance avec les parlementaires pour essayer d'avancer. Hein. Je pense que tout le monde a un rôle à jouer. C'est-à-dire que quand on parle de vente d'armes, toutes les ventes d'armes sont autorisées en notre nom à tous chacun. Et donc c'est à nous de rappeler à l'État quels sont ses droits, ses devoirs, ses obligations. Et pour cela, la voix de chacun compte. Et donc il est important que dans un système comme le nôtre, où les parlementaires, notamment les députés, sont très proches de leur base locale, du terrain, parce qu'ils sont élus dans des circonscriptions, il est extrêmement important qu'il y ait des remontées du terrain sur la façon dont les citoyens sentent, appréhendent certains sujets. Donc il est extrêmement crucial pour nous d'avoir des militants qui se mobilisent sur le terrain au travers de projections débats, de signatures de pétitions, de conférences débats organisées avec des journalistes, des spécialistes, des militants pour confronter les points de vue et essayer de les faire remonter aux députés. Il faut que les députés sentent la vie qu'il y a sur leur terrain sur ces sujets-là. Et donc c'est pour ça qu'il est crucial de faire entendre la voix de chacun. Et d'ailleurs, quand vous avez un rendez-vous au gouvernement, il n'est pas rare que certains vous demandent « Et votre pétition, là, vous en êtes à combien ?» Parce qu'ils savent qu'au-delà d'un certain nombre, la pétition aura un impact. Il est important que chacun ajoute sa voix à son échelle pour faire avancer les choses, parce que de toute façon ce n'est que collectivement qu'on arrivera à modifier le système. Personne ne croyait à un traité sur le commerce des armes alors qu'il est entré en vigueur maintenant il y a quelques années, donc en décembre 2014. Si on en croit certains, quand les militants ont commencé à parler de traité sur le commerce des armes avec les ministères de la Défense un peu partout dans le monde, les gens avaient plutôt tendance à rigoler. Voilà. Aujourd'hui, il y a un traité sur le commerce des armes. Donc il faut se donner le temps, il faut se donner les moyens de changer les choses. C'est un travail de longue haleine, de patience. Je crois qu'il ne faut jamais garder à l'esprit, perdre de vue que ce pour quoi on se bat, c'est protéger des vies.
C'était le quatrième et dernier épisode de la série « Silence, on arme » d'Amnesty International. Si vous souhaitez agir, vous pouvez signer notre pétition pour demander au gouvernement plus de transparence et de contrôle sur les ventes d'armes de la France. Rendez-vous sur www.amnesty.fr.
Voilà, de retour sur l'antenne de Principe Actif. Donc c'était la quatrième et dernière partie de ce podcast égrené au fil des émissions d'Amnesty sur Principe Actif. La dernière partie donc qui explique effectivement l'intérêt d'avoir maintenant un traité. Reste à le faire respecter, c'est pas le plus simple. On change complètement de sujet et de pays. On quitte la France, je crois qu'on va aller aux États-Unis avec Françoise.
Et bien voilà que je vous donne une action urgente qui a réussi, puisque le pasteur Steven Tendo a été libéré. En raison de pressions massives exercées sur les autorités, pasteur Steven Tendo a finalement reçu les soins médicaux nécessaires, tant pour son diabète que pour d'autres maladies. Il a subi une opération à l'œil afin de préserver sa vue et il peut à nouveau lire avec des lunettes. Le pasteur a enfin été libéré sous le nouveau gouvernement, c'est-à-dire sur le gouvernement du président Biden. Donc voilà, on espère que ça augure aussi d'autres libérations.
Ok, et je crois que tu avais un autre pays dont tu voulais nous parler, c'était l'Iran.
Une action urgente en Iran. Alors là, c'est un travail à faire sur l'Iran. Cette action urgente concerne Zeynab Jalalian, une femme kurde iranienne. Des agents du ministère du renseignement soumettent Zeynab Jalalian à une forme de torture en la privant délibérément de soins de santé pour l'obliger à faire des aveux filmés. Cette privation intentionnelle de soins médicaux est à l'origine de douleurs et de souffrances aiguës, car Zeynab a de graves problèmes de santé, notamment des troubles respiratoires, depuis qu'elle a eu le Covid. Donc, on vous demande d'écrire à l'ambassade de République en Iran et qui transmettra aux responsables du pouvoir judiciaire d'Iran. Voilà, vous pouvez nous joindre sur evreux@amnistyfrance.fr.
C'est ça.
Et on vous communiquera ce qui est nécessaire pour envoyer l'action urgente.
Les documents, effectivement, pour envoyer. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail et nous donner vos coordonnées. On vous répond aussitôt, enfin très très vite. Voilà. Bah, on va passer à la première pause musicale parce que l'heure s'avance et on a d'autres informations et d'autres sujets dont on va vous entretenir après cette pause. Donc, à tout de suite.
I'm a living sunset, lightning in my bones. It pushed me to the edge, but my will is stone. 'Cause I believe in a
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'était Ben Harper, que vous avez peut-être reconnu. Voilà. Et je crois que Claire Lise, nous écoute très, très, comment dire, très sagement depuis le début de l'émission, mais elle avait des choses à vous dire.
Oui, d'abord, bonjour à tous. Il faisait très beau aujourd'hui, voilà. Ça m'a donné envie de faire un petit peu de fantaisie. Et je me suis dit, d'accord, on est le 23 février, mais comme la prochaine émission, elle est dans 15 jours, on va faire la journée de la femme aujourd'hui, parce que d'abord, la journée de la femme, c'est pas que le 8 mars, c'est tous les jours les droits humains, et les droits humains, les droits de la femme aussi. Donc, je vais vous parler des femmes. Et je vais commencer par dédier cette petite chronique à une jeune femme avec qui j'ai passé du temps samedi. Vous savez que je suis membre d'Amnesty International, mais aussi d'une association qui s'appelle le CFED Asti d'Evreux et qui aide des personnes en situation irrégulière dans leur démarche pour les papiers. Et là, j'ai aidé une jeune femme qui faisait son récit d'asile et c'était un récit un peu délicat. J'ai passé du temps avec elle et donc je vais lui dédier cette chronique. Alors, je ne vais pas vous dire son vrai prénom, on va dire qu'elle s'appelle Marie. Par exemple, elle vient de RDC. Et Marie, elle avait tout pour réussir en RDC. Son papa était pédiatre. Ils étaient d'une famille donc assez aisée. Elle a fait ses études et elle avait réussi son diplôme d'infirmière. Elle a rencontré son mari qui avait fait une fac de médecine et qui était médecin. Ils avaient tout pour réussir. Et puis, un jour, la belle famille s'est manifestée. Elle avait deux petites filles. Et la belle famille, donc la famille de son mari, voulait marier de force les petites filles, les marier à l'avance. Et comme c'était impossible d'arriver à faire entendre raison à la belle famille, eh bien, John, Marie, leurs deux enfants ont fui la RDC et ils ont fui en Afrique du Sud où ils ont eu un statut de réfugié en 2015. Donc le mari a fui d'abord et puis elle avec les deux petites filles les l'ont rejoint et ils avaient le statut de réfugié. Mais vous savez qu'en Afrique du Sud il y a eu des émeutes xénophobes très graves en 2015, en 2017, en 2019 et en fait les réfugiés là-bas, les étrangers en Afrique du Sud sont pris pour cible, sont souvent battus, sont volés, subissent quand même de très très mauvais sort. Et le mari de Marie a disparu au cours des émeutes qui ont lieu en 2017. Et quand elle s'est déplacée en ville pour aller faire renouveler son statut de réfugiée, elle s'était déplacée avec sa petite fille. Ils ont été arrêtés par un groupe d'hommes. Et un des hommes a chopé sa petite fille aînée, qui a maintenant 10 ans, qui est en France. Il a chopé la petite fille et lui a placé un couteau sous la gorge. Vous imaginez une gamine de cet âge-là, à l'époque, elle devait avoir 6-7 ans, qui se retrouve avec un couteau sous la gorge et on force sa mère à donner ses papiers, son argent. Et après, les hommes, ils ont violé la mère devant la petite fille. Donc ça, c'est le genre de traitement que subissent ces femmes du monde qui ont le courage de fuir leur pays pour protéger leurs enfants, pour éviter les mariages forcés, pour éviter l'excision. Toutes ces femmes qui se retrouvent en fait souvent victimes de violences de tous ordres. Marie est restée en Afrique du Sud encore quelques temps et puis son papa, qui lui-même était donc pédiatre en RDC, lui envoyait de l'argent et avec cet argent, elle a réussi à venir en France. En France, dans un premier temps, comme ils étaient passés avec un visa italien, elle a eu forcément une procédure Dublin, donc refus qu'elle puisse demander asile en France, alors qu'elle avait un statut de réfugié au départ en Afrique du Sud. Refus qu'elle puisse poser une demande d'asile, donc avec des conditions de vie très difficiles à la Mala, avec ses deux petites filles pendant des mois. Et puis grâce au confinement, les gens qui étaient dublinés n'ont pas pu être envoyés dans leur pays. Donc, de nombreux gens dublinés actuellement ont droit de déposer une demande d'asile en France. Donc, j'ai aidé Marie. Alors qu'elle est en France depuis 2019, qu'elle était dublinée, mais comme elle n'a pas pu, elle n'est pas partie, on espère que l'OFPRA lui accordera le statut de réfugié pour ses deux petites filles et pour elle. Alors, je dédie cette chronique à Marie et puis à toutes ces autres femmes. Hein. Je me rappelle de Mimi qui était venue, qui aussi de RDC, qui avait un statut de réfugiée au Mali, qui avait été violée par les hommes de Boko Haram et qui, arrivée enceinte en France, était dans la rue à 7 mois de grossesse. L'État français l'a laissée dans la rue. Et quand elle a accouché, elle a appelé sa petite fille Gloria. Voilà. Mimi va très bien. Gloria est scolarisée et Mimi espère pouvoir faire venir ses autres enfants maintenant en France. Donc une chaleureuse pensée à toutes ces femmes et de leur courage. Et comme donc je disais, aujourd'hui on va faire comme si c'était la journée de la femme, je voulais parler des femmes qui vivent en Afrique australe et qui, avec le confinement, subissent vraiment, comme en France d'ailleurs, les femmes françaises, hein, subissent les violences conjugales redoublées. Donc, elles sont victimes de violences et des milliers de femmes et de filles sont méprisées par les autorités. Donc, pour des milliers de femmes et de filles en Afrique australe, l'endroit le plus dangereux redevient leur propre foyer en période de confinement. Il se transforme en un lieu de cruauté, de viol et de violence. Notre nouvelle enquête, traitée comme des meubles, violences liées au genre et réponse au Covid-19 en Afrique australe, montre que les femmes et les filles victimes de violences et d'agressions qui osent les signaler, risquent d'être rejetées socialement. De surcroît, lorsqu'elles se risquent à dénoncer ces violences, leurs plaintes ne sont pas prises au sérieux par les autorités. Des normes sociales et culturelles sont néfastes pour les femmes dans ces pays. Des stéréotypes néfastes sur le genre ont favorisé la montée de la violence à l'encontre des femmes et des filles dans les 5 pays d'Afrique australe examinés, à savoir l'Afrique du Sud, Madagascar, le Mozambique, la Zambie et le Zimbabwe. Ces préjugés font partie des normes sociales et culturelles qui véhiculent l'idée selon laquelle les femmes sont soumises aux hommes. On apprend aux femmes que les maris ne battent leurs femmes que parce qu'ils les aiment. Ben voyons. Alors ça, c'est une des militantes au Mozambique, hein, qui a fait remonter comment dire, appréciation.
Si je peux me permettre juste un petit commentaire, moi en tant qu'homme, je peux te dire que c'est pas vrai, ça c'est complètement inventé.
Voilà, mais bon, pourtant c'est ce qu'elles vivent. Hein. Et donc la pandémie du Covid-19 a donné lieu à une multiplication de violences liées au genre à l'encontre des femmes et des filles dans la région. Elle a également amplifié des problèmes structurels préexistants tels que la pauvreté, les inégalités, la criminalité, le taux élevé de chômage et les dysfonctionnements systématiques du système judiciaire. À Madagascar, l'augmentation de la pauvreté due au confinement a été un facteur majeur de la hausse du nombre de cas de violences liées au genre pendant cette période, les femmes et les filles devenant plus pauvres, plus dépendantes économiquement de leurs partenaires violents et donc plus exposées à ces violences. Dans les semaines qui ont suivi l'instauration de mesures de confinement dans la région, la violence contre les femmes a connu une flambée. Les organisations œuvrant pour protéger et soutenir ces victimes n'ont pas été considérées comme un service essentiel, confrontant les femmes victimes de violences aux restrictions strictes de déplacement, si bien qu'elles ont renoncé à porter plainte. Au cours de la première semaine de confinement, le service de police sud-africain a enregistré 2300 appels à l'aide pour des violences liées au genre, en une semaine. À la mi-juin 2020, le pays comptabilisait 21 femmes et enfants qui avaient été tués par leurs partenaires. Le meurtre de Tchegado Fatso Poulé a été une affaire emblématique. Cette jeune femme de 28 ans disparue le 4 juin 2020 a été retrouvée 4 jours plus tard, poignardée et pendue à un arbre de Johannesburg, alors qu'elle était enceinte de 8 mois. Il y a aussi le cas de Maria, donc le nom a été modifié, originaire du Zimbabwe, chassée violemment de chez elle par son mari après qu'il ait installé sa maîtresse à leur domicile pendant le confinement. Au Zimbabwe, une organisation qui propose des services de protection aux femmes victimes de violences domestiques a recensé 760 cas de violences liées au genre au cours des 11 premiers jours de confinement dans le pays. Au 13 juin 2020, ce nombre était passé à 2768 cas. Des obstacles à la justice. Donc notre enquête met en évidence le manque de confiance dans la justice et le traumatisme secondaire que les victimes et les survivantes subissent souvent de la part des autorités, y compris de la part de la police et des services de santé lorsqu'elles tentent de signaler les faits de violence. La police ne prend pas assez au sérieux les victimes de violences liées au genre lorsqu'elles portent plainte. Natacha, victime de viol, raconte. Ces obstacles liés à la justice ont été accentués lors de la pandémie du Covid-19. En Afrique du Sud, par exemple, l'opinion publique s'est indignée des manquements de la justice pour les victimes de violences basées sur le genre. La loi relative à la violence domestique de 1998 déclare pourtant de façon explicite que les victimes peuvent porter plainte contre leurs agresseurs. Selon les organisations de la société civile, des policiers ont parfois été accusés d'avoir rejeté des plaintes pour violences liées au genre parce qu'ils les considéraient comme des affaires familiales et non comme des infractions. La stigmatisation entourant les personnes ayant subi des violences sexuelles est aujourd'hui établie et reconnue comme facteur de sous-déclaration et de minimisation des faits. Les dirigeants de la communauté de développement de l'Afrique australe doivent veiller à ce que la prévention contre les violences liées au genre et domestiques, ainsi que la protection, fassent partie intégrante des réponses nationales aux pandémies et autres situations d'urgence. Les États doivent veiller à ce que les femmes et les filles continuent de bénéficier de la protection policière et de la justice, ainsi que des centres d'accueil et des services d'aide pour échapper au fléau de la violence liée au genre. Donc là, je vous parlais de l'Afrique, mais tout bien évidemment, en France, pendant le confinement, il y a des femmes qui ont été battues, des enfants qui ont été battus, il y a des femmes qui disparaissent et il y a des femmes qui meurent encore sous le coup de leur conjoint en France chaque semaine. Voilà.
Effectivement, en t'écoutant, je me disais, on peut changer de pays, la situation n'est pas très différente chez nous ou ailleurs, effectivement, par rapport à cette information.
Et effectivement, cette année a été très particulière parce qu'elle, avec le confinement, avec beaucoup de femmes qui n'ont pas pu aller travailler, qui sont restées à la maison, les violences ont été exacerbées. Et c'est vrai qu'on a l'impression d'être reparti des années en arrière. En fait, c'est parce que maintenant, on sait les choses se disent et sont aussi médiatisées. Et heureusement, parce que c'est quand même un fléau, et même en France.
Oui, non, mais c'est sûr. Oui, c'est évident que la loi du, comment dire, l'omerta, comme on dit, hein, c'est-à-dire la loi du silence qui régnait, qui était imposée sur tous ces sujets-là, les violences faites aux femmes, les violences sexuelles, enfin, etc., pour les problèmes d'inceste qu'on voit maintenant, enfin, de tous ordres, effectivement, le fait que la parole soit prise et que ce soit su, c'est une première étape pour que la situation effectivement change, c'est certain.
Voilà, donc c'était dédié aux meufs France et d'ailleurs.
Voilà, c'était la chronique meuf de Claire Lise. Merci bien. Je crois que Françoise, tu voulais parler de tout à fait autre chose et qui touchait en fait les droits des Palestiniens, si je ne me trompe pas.
Oui, j'avais aussi une action femme.
Bon, vas-y.
Je continuerai bien quand même dans...
Tout à fait, vas-y.
Vas-y. Sur ce chemin, eh bien voilà, exigeons la protection du médecin, une dame, Tatiana Revna. Ça se passe en Russie. Tatiana Revna, femme médecin dans l'unité de soins intensifs de Kalach-sur-le-Don en Russie, est la cible de représailles pour avoir dénoncé la pénurie d'équipements de protection individuelle pour le personnel médical dans son hôpital. Elle est victime de mesures disciplinaires injustifiées par l'administration de l'établissement. Elle fait aussi l'objet d'une enquête préliminaire menée par la police à la suite d'une plainte émanant du médecin-chef de l'hôpital. Ce médecin risque à présent des poursuites pénales pour diffamation. Tatiana Revna est une soignante en première ligne dans la lutte contre le Covid et une lanceuse d'alerte. Elle est victime de persécutions uniquement pour avoir fait son travail, exercer sa liberté d'expression et soulever des questions d'intérêt général. Au lieu d'être menacée, Tatiana et l'ensemble du personnel soignant, doivent être protégés. Donc, il y a une action qui s'adresse ici au ministre de la Santé de la Fédération de Russie. Si vous êtes intéressé par cette action, vous nous envoyez un petit mot sur notre mail et nous vous enverrons l'information nécessaire pour envoyer vos lettres.
C'est ça. Donc, on rappelle l'adresse mail rapidement. On vous l'a déjà dit, mais bon, il faut toujours répéter. Amnesty France en un seul mot, Amnesty avec un Y, amnestyfrance.fr. Voilà. Donc tu veux pas nous parler du droit des Palestiniens, Françoise? Je croyais que tout d'un coup tu voulais plus nous en parler.
Si.
Juste avant la pause musicale, parce que l'heure tourne et on va s'approcher de la deuxième pause musicale.
un jeune Palestinien placé en détention administrative. Amal Nakelch, âgé de 17 ans, atteint d'une maladie auto-immune rare, est placé en détention administrative sans chef d'inculpation ou procès depuis le 21 janvier 2021. Il est détenu dans la prison de Megiddo, dans le nord d'Israël, en violation du droit international. Tout contact avec sa famille lui est refusé. Le docteur Yarif Muar, directeur de la section des programmes d'Amnesty International Israël, a déclaré « La détention par Israël d'un enfant malade constitue une menace majeure pour sa sécurité et sa santé. Ce cas montre encore une fois qu'Israël n'a pas recours aux procédures juridiques adéquates et use de traitements cruels vis-à-vis des enfants et des adolescents. » Amnesty International s'oppose à la détention administrative des enfants et renouvelle son appel aux autorités israéliennes à cesser d'utiliser systématiquement la détention administrative à l'encontre des Palestiniens des territoires occupés. D'une manière générale, les enfants ne peuvent être détenus qu'en dernier recours et pour une courte période, selon l'article 37b de la Convention relative aux droits de l'enfant à laquelle Israël est partie. Voilà. Donc, nous vous demandons d'agir aussi à propos de ce cas.
D'accord. Toujours à la même adresse, vous nous contactez. Juste un petit commentaire, parce que j'anticipe des éventuelles remarques qu'on peut toujours avoir. On précise bien quand on fait, parce que une telle mauvaise foi de la part des gens qui contestent les actions vis-à-vis d'Israël, parfois. On parle bien de la politique de l'État d'Israël. Ça n'a strictement rien à voir avec les Juifs, l'antisémitisme ou des choses comme ça. C'est uniquement par rapport à l'État d'Israël. Non, mais il faut toujours préciser les choses. Parce qu'après, on est taxé, entre guillemets, d'antisémitisme, alors que, bien évidemment, Amnesty est aux antipodes de tout antisémitisme. Bien au contraire, c'est l'État d'Israël que l'on vise et absolument personne d'autre. Voilà. On passe à la seconde et dernière pause musicale et on se retrouve juste après. De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc Amnesty International, pour la troisième et dernière partie de son émission du 23 février aujourd'hui. Voilà. Et là, on était avec un groupe américain qui s'appelle My Morning Jacket, qui est aussi un groupe qui soutient Amnesty depuis des années. Mais ce n'est pas du tout de musique dont voulait vous parler Claire Lise, mais je crois qu'elle voulait vous parler de Libye.
Oui. Alors, je vais vous parler de la Libye. Alors, de temps en temps, je vous en ai déjà parlé, la Libye, puisque souvent, quand je vous parle des migrants et de leur trajet, on vous parle aussi des atrocités qu'ils peuvent subir dans ce pays, où, en fait, c'est un état, c'est une zone de non-droit, et il y a beaucoup de brigands, de mercenaires, de gens qui capturent les gens, qui les réduisent en esclavage. Souvent, ils les prennent en esclavage pendant 2, 3, 4 mois. Parfois, ils donnent des rançons aux familles d'Afrique, des autres pays d'Afrique. Et si les familles payent la rançon, ils libèrent la personne. Et d'autres fois, comme c'est des migrants, ils les gardent en esclavage pour qu'ils travaillent dans des, par exemple, dans là où on produit des dattes. Ils les payent pas, bien sûr. Et puis après, ils les mettent dans des zodiacs. Et puis, vogue la galère, ils meurent en mer ou ils passent la Méditerranée. Mais bon, voilà. Donc, c'est atroce ce qui se passe en Libye. Et là, je voulais parler justement de ce qui s'y passe par rapport aux milices qui sont en place. Donc, 10 ans après la chute de Kadhafi, donc la Libye est devenue une zone de non-droit. Meurtre, disparition forcée, torture. La liste des violations des droits humains est très longue. Les responsables de ces crimes n'ont jamais été punis. À la place, ils ont reçu une promotion. 10 ans après le renversement de Muammar Kadhafi, la justice n'a toujours pas été rendue aux victimes de crimes de guerre et de graves atteintes aux droits humains commis par des milices et des groupes armés. La violente répression des manifestations qui ont éclaté en février 2011 s'est vite transformée en un conflit armé qui, à la suite de la campagne de frappe aérienne menée par l'OTAN, s'est soldé par la chute de Muammar Kadhafi. Libye, youpi youpi, Kadhafi a fui, d'accord, mais depuis, la Libye a aussi sombré dans le non-droit et l'impunité pour de nombreuses violations, dont des crimes de guerre commis par des milices et des groupes armés rivaux. Les gouvernements libyens successifs se sont engagés à assurer le respect de l'état de droit et des droits humains, mais aucun n'est parvenu à contrôler les responsables de ces agissements. Depuis 10 ans, l'obligation de rendre des comptes et la justice ont été sacrifiées en Libye au nom de la paix et de la stabilité. Pourtant, ni l'une ni l'autre n'a été atteinte. Au lieu de cela, des responsables des violations des droits humains ont bénéficié d'une impunité totale, ont intégré des institutions de l'État et ont été traités avec respect. Les autorités libyennes ont ainsi promu et légitimé des chefs de milices responsables d'actes de violence. Au lieu de les traduire en justice, ils sont récompensés avec des postes de pouvoir et de hautes responsabilités. Tant que ces personnes accusées de crimes de guerre ne sont pas poursuivies en justice, les souffrances sans fin que vivent les civils se poursuivront avec la même intensité. Depuis 2014, la Libye est fragmentée entre 2 entités rivales qui se disputent la légitimité, la gouvernance et le contrôle territorial. Les négociations menées sous l'égide des Nations Unies ont conduit à l'annonce d'un nouveau gouvernement d'union nationale le 6 février 2021, donc c'est tout neuf, qui est chargé d'organiser des élections nationales en Libye plus tard dans l'année. Alors, Guéniwa a été promu milicien en chef. Alors, depuis la chute de Muammar Kadhafi, les gouvernements successifs ont intégré des milices au ministère de la Défense et de l'Intérieur. Et en janvier, le conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale basé à Tripoli a nommé Abdel Ghani Al-Kiti, également connu sous le nom de Guéniwa, chef milicien de la force centrale de sécurité d'Abou Salim. Il s'est retrouvé à la tête d'une nouvelle entité qui relève directement de la présidence et qui est nommée Autorité de soutien à la stabilité. Donc depuis 2011, Guéniwa est devenu l'un des plus puissants chefs de milice et il est basé dans le quartier d'Abou Salim, un des quartiers les plus peuplés de la ville. Avec ce nouveau poste, Guéniwa et son groupe bénéficieront de pouvoirs vastes et vagues, notamment en matière d'application des lois, leur permettant entre autres d'arrêter des personnes dans le cadre d'affaires liées à la sécurité nationale. Pourtant, nous avons recensé depuis 10 ans des crimes de guerre et d'autres humains commises par les forces sous son commandement. À titre d'exemple, en 2013 et en 2014, nous avons découvert que des personnes détenues par les forces de sécurité contrôlées par Geniwa avaient été soumises à des enlèvements, à des actes de torture, et que certaines personnes étaient mortes en détention. Donc le gouvernement d'Union nationale a donné une légitimité et un salaire à la milice de Geniwa dès 2016, en l'intégrant à son ministère de l'Intérieur, et cela a permis la multiplication d'homicides illégaux, des enlèvements, des actes de torture et notamment des violences sexuelles contre des femmes détenues. Donc l'impunité est généralisée et Geniwa et ses forces et d'Abou Salim ne sont pas les seuls à avoir été récompensés en dépit de leur bilan déplorable en matière de droits humains. Donc voilà, c'est en septembre 2020, le gouvernement d'Union nationale a également promu Emad El Tradboulsi, qui dirigeait l'agence de sécurité publique, au poste de directeur adjoint du renseignement. Et cette milice a pourtant été impliquée dans des crimes contre des migrants et des réfugiés, notamment avec des disparitions forcées. Donc les forces armées arabes libyennes n'ont pas arrêté le chef de la milice Mahmoud Al-Werfali. Il est recherché par la Cour pénale internationale pour l'homicide de 33 personnes. Et lui aussi, il a été promu au poste de lieutenant de la brigade El Faika. Donc voilà, c'était pour dénoncer un peu ce qui se passe en Libye. C'est vrai qu'on était content qu'un tyran soit tombé. Malheureusement, il y a tout ce qui vient après, des milices et des zones de non-droit.
Merci Claire-Lise pour toutes ces informations. Effectivement, on a eu l'occasion à plusieurs reprises que tu nous parles de la Libye, mais c'est un sujet qui est loin d'être clos en termes d'atteinte aux droits humains.
On comprend mieux le piège et l'enfer dans lequel tombent toutes les personnes qui remontent. Hein, pouvoir, ils remontent de Guinée, de Côte d'Ivoire, et ils arrivent en fait souvent, leur chemin passe par la Libye, et c'est un piège.
C'est sûr. Françoise, parce que l'heure tourne toujours, oui. Donc Françoise, tu voulais nous parler, je crois.
Sur le problème des enfants en du Tigré, une région d'Éthiopie. En Éthiopie, les 1,3 million d'enfants du Tigré ne sont pas retournés à l'école. C'est un mot de l'UNICEF, mais que soutient Amnesty tout à fait. 12 semaines après le début du conflit au Tigré, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, a exprimé mercredi sa préoccupation concernant la situation des enfants de cette région d'Éthiopie. Peu d'informations sont disponibles sur ce qui se passe actuellement dans cette région après 3 mois de conflit. Le peu que nous savons de l'impact du conflit sur les enfants du Tigré, à partir des témoignages, est profondément troublant, a déclaré la directrice générale de l'UNICEF. Selon cette agence de l'ONU, les campagnes de vaccination sont au point mort dans tout le Tigré. Les infrastructures civiles, y compris les établissements de santé, ont été endommagées ou détruites et les fournitures essentielles ont été pillées. Il y a peu de carburant pour faire fonctionner les systèmes d'eau et d'assainissement. Les enfants de la majeure partie de l'Éthiopie sont retournés à l'école suite aux restrictions liées à la COVID-19, mais pas les 1,3 million d'enfants en âge scolaire du Tigré, donc de cette région d'Éthiopie. L'UNICEF a reçu des informations faisant état de 300 enfants non accompagnés ou séparés parmi les réfugiés qui ont fui le Tigré vers le Soudan voisin. Ils seraient beaucoup plus nombreux parmi les milliers de personnes déplacées à l'intérieur de l'Éthiopie. Une évaluation menée par les partenaires de l'USF début janvier dans la zone de Shire a révélé des taux de malnutrition aiguë sévère allant jusqu'à 10% chez les enfants de moins de 5 ans. Ce taux est bien au-dessus du seuil d'urgence de l'OMS et pourrait mettre en danger la vie de 70 000 enfants. Le niveau moyen de malnutrition aiguë atteignait 34%, ce qui fait craindre que les enfants touchés risquent de tomber dans une malnutrition potentiellement mortelle, alerte l'agence de l'ONU. En raison des restrictions d'accès, notre connaissance de la situation est encore très limitée. Nous craignons que ce que nous ne savons pas soit encore plus inquiétant, reconnaît la personne responsable de l'ONU. Pendant 12 semaines, la communauté humanitaire internationale a eu un accès très limité aux populations touchées par le conflit dans cette région. L'accès petit mais crucial qui a permis à l'UNICEF et à ses partenaires d'envoyer 29 camions remplis de fournitures d'urgence pour la nutrition la santé et la protection de l'enfance était un pas dans la bonne direction, mais loin du niveau d'accès et de l'ampleur du soutien réellement nécessaire, a souligné l'agence. Chaque jour supplémentaire d'attente ne fera qu'aggraver la souffrance des enfants.
Voilà. Merci Françoise. Et puis une dernière information, parce qu'on va toucher au terme de l'émission. Une dernière information, j'en avais dû en dire un tout petit mot très rapidement la dernière fois, mais je vais revenir un peu plus longuement. Donc Amnesty International a lancé une procédure avec d'autres associations, une procédure contre l'État français par rapport aux contrôles d'identité discriminatoires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les contrôles d'identité discriminatoires? Ben, en fait, il est de notoriété publique, hein. Je veux dire, il y a déjà des statistiques qui ont été faites qui le prouvent largement, que lorsqu'on n'a pas une tête, entre guillemets, de bon français bien blanc, de Gaulois, voilà, merci, eh bien, on a beaucoup plus de chances, je crois que la proportion, ça va de 1 à 5, on a beaucoup plus de chances d'être contrôlé par les forces de l'ordre qui demandent les papiers d'identité, comme ça, dans la rue, simplement, donc des vérifications, ce qu'on appelle au faciès. Donc, c'est une discrimination d'office, parce que c'est pas parce qu'on a une couleur de peau qui n'est pas celle d'un bon Gaulois, comme disait Claire Lise, qu'on doit être plus facilement ou plus largement contrôlé. Donc, il y a une action qui a été lancée par Amnesty avec d'autres organisations, 5 autres organisations, et qui est une procédure, en fait, qui s'appelle une action de groupe. Alors, en fait, il y a un courrier, je vous résume en deux mots, il y a un courrier qui a été envoyé au Premier ministre et à 2 autres ministères, demandant à l'État français, donc à travers ces ministères, qu'est-ce qu'il compte prendre comme mesure pour que ces contrôles d'identité discriminatoires cessent, qu'en fait, les contrôles d'identité ne soient plus faites par rapport à l'aspect physique des gens. Et donc, pour vous résumer, la mise en demeure envoyée aujourd'hui, donc ça remonte au mois de fin janvier, envoyée au Premier ministre, au ministre de l'Intérieur et de la Justice, ouvre une période de 4 mois qu'ils peuvent mettre à profit pour engager des discussions avec les organisations, donc, dont Amnesty France. À l'issue de cette période, et en l'absence de mesures satisfaisantes, les organisations pourront décider de saisir la justice. Voilà. Donc en découle, je ne vais pas vous les lire, des recommandations. Vous avez aussi l'info sur le site d'Amnesty, amnesty.fr. Les recommandations préconisées par Amnesty France pour que ces contrôles discriminatoires cessent. Mais bon, c'est important dans la mesure, effectivement, où là, c'est une action d'interpellation directe de l'État français pour qu'il fasse quelque chose à cette situation discriminatoire qui dure depuis des années et des années et des années, des dizaines d'années. Ça, c'est pas nouveau. Hein.
Et, voilà. Et nous, on n'a pas des dizaines d'années pour dire au revoir parce que ça m'a coupé, mon petit loup.
C'est ça. Donc, prochaine émission, notre actualité, elle se limite toujours à la radio pour l'instant, pour cause de pandémie. Prochaine émission d'Amnesty en direct sur l'antenne de Principe Actif, c'est le 16 mars, mardi 16 mars, de 19h à 20h en direct. Et on vous rappelle que jeudi prochain, donc cette semaine, très bientôt, de 18 à 19h30, vous aurez la diffusion de la reprise des émissions Fréquences Droits Humains. Voilà. Alors pour ne rien vous cacher, on est obligé d'enregistrer cette émission, mais l'enregistrement s'est fait dans les conditions du direct. Elle a été enregistrée vendredi dernier, mais elle va être diffusée donc sur l'antenne jeudi. Et cette émission a eu pour thème Écologie et droits humains, quelle place pour l'action citoyenne. Voilà. Donc on vous en dit pas plus. Écoutez-nous effectivement donc jeudi prochain, merci. Et retrouvez-nous en direct pour l'émission d'Amnesty le 16 mars. Et on vous souhaite une bonne soirée. Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.